Eh bien, c'est le balado numéro 4. Ici Diane Nausier, votre animatrice. Oui, on veut que l'été se prolonge, on vous apporte la mer, les vagues. Et aussi, je vais vous emmener sur le site du Salon du Livre de la péninsule acadienne, www.salonduLivrePA.com. On va découvrir ensemble qu'est-ce que c'est l'espace Sophilie. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je vous offre également un extrait du livre « Cours ben cours » des auteurs Philippe Garon et Sonia Cotten. Mais d'abord, notre invitée aujourd'hui est une auteure, une humoriste, chroniqueur et une mère de famille. Elle est des nôtres cette année parce qu'en octobre dernier paraissait son premier livre « La vie n'est pas une course » chez Québec Amérique. Elle s'est arrêtée de courir afin de se poser des questions et de comprendre pourquoi tout le monde court. Léa Streliski. Léa, bonjour.
Bonjour.
La vie n'est pas une course, c'est 20 chapitres, des portraits de choses qui nous stressent, avec des dessins à la fin comme résumé de chaque chapitre, et c'est très drôle. D'ailleurs, votre humour est présent également dans vos tournures de phrases. Vous savez ce que je veux dire par vos tournures de phrases?
Oui, ma manière, c'est ma syntaxe. Là.
C'est ça. C'est très acadien de dire tournure de phrase. Ah. Votre façon de vous exprimer. Vous avez un regard, très juste sur notre course effrénée. Et moi, je me demande, le fait d'avoir... appeler une sorte d'appel au calme, un appel à redonner un peu de sens à nos vies. C'est comme si vous aviez pris une photo de la folie de notre époque. Comme si on se disait, et vous nous disiez, t'es pas tout seul. Puis juste ça, là, ça m'a apaisée. Qu'est-ce qui vous a amené à partager vos réflexions sur notre réalité d'essoufflée?
J'évoluais dans le milieu de l'humour. Je venais de sortir de l'École nationale de l'humour, qui est une école d'art à Montréal pour devenir humoriste, qui est très connue au Québec et qui...
C'est connu ici aussi?
Oui, et oui. qui a fait sortir pas mal d'humoristes qui ont beaucoup de succès, en fait. Puis c'est un monde très masculin, l'humour. C'est un monde de compétition, c'est un monde d'argent, de gros chiffres. Donc, on ressent beaucoup la pression, en fait. Puis, je suis une femme de mon époque. Je suis née dans les années 80. J'ai vécu, donc, dans l'espèce de pic du capitalisme des années 80. Puis, je suis imprégnée de tout ça. Et je suis une femme dans ce monde-là. Je suis aussi une mère de famille dans ce monde-là. Et je pense que, à force de nous promettre la lune et de penser qu'on pouvait tout avoir et que tout est une course, justement. À un moment donné, j'ai brisé, je me suis juste essoufflée, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais signé avec une agence de talent à l'époque qui avait une façon de faire, qui produisait de très bons résultats, qui avait une manière de faire qui avait été prouvée, mais qui, moi, ne m'allait pas. Ce processus de développement ne m'allait pas. Et à force de vivre toute cette pression, j'ai eu des problèmes de santé mentale, j'ai eu des problèmes physiques et je me suis dit, là, j'avais quoi à l'époque, je devais avoir 36 ans peut-être, et je me suis dit, mon Dieu, mais il me reste quand même pas mal de temps à vivre, là. Moi je me rendrai pas là si c'est ça le rythme.
Qu'est-ce qui vous allait pas dans la façon de faire?
Je sais pas, c'est juste que je me suis dit, il doit y avoir une autre manière de vivre. J'aime pas la comparaison, j'aime pas me développer en compétition, je suis pas compétitive, j'aime pas ça, ça m'emmerde. J'aime gagner comme tout le monde, mais je gagne pas par rapport aux autres, je gagne par rapport à moi-même. J'ai l'impression que je crée quelque chose qui est beau ou qui est bon, qui me ressemble. C'est ça qui m'importe. Et j'avais l'impression que ce chemin-là n'était pas autant autorisé, ou en tout cas, il était perçu comme quelque chose de risqué qui n'allait pas donner de résultats. Mais j'ai eu quelque part de la chance, c'est que j'étais tellement épuisée et j'étais tellement à bout, je faisais des crises de panique, qu'il n'y avait pas moyen que je continue à me mentir et à essayer d'être quelque chose que j'étais pas, parce que j'allais mourir, là. c'était juste trop douloureux. Et j'ai rompu avec cette agence et j'ai fini par me dire, mais c'est ça, il me reste du temps à vivre, là. Il doit y avoir une autre manière de vivre. Et c'est à ce moment-là que il y avait déjà un éditeur qui j'écrivais dans la presse et il y a un éditeur qui m'avait approché en disant « Est-ce que tu voudrais écrire un livre? » J'avais dit non parce que j'ai pas 60 ans et je suis pas dans un chalet, donc je vais pas faire ça. je me gardais ça pour plus tard. Mais finalement, j'ai dit « Ben écoute, si j'ai l'idée d'un livre, je vais l'écrire. Je m'inventerai pas un livre pour en faire un puis pour qu'on parle de moi ou pour faire un lancement, là. Mais si j'ai une idée, je vais l'écrire. » Et à un moment donné, j'ai regardé autour de moi, puis cette phrase m'est venue, mais comme la vie, c'est pas une course, là. Pourquoi tout le monde? Puis j'ai eu envie de lever ma main, de faire comme, voyons, pourquoi tout le monde court? Pourquoi on court, gang? Et ça, c'était avant la pandémie. Puis à un moment donné,
ça me trottait dans la tête, j'ai fait, non, laisse-la finir. Ben oui, mais la pandémie, c'était quoi? C'était comme une bénédiction? Parce que, avec tout ce qu'on sait, des conditions d'horreur, puis il y a des gens qui vivent ça très difficilement, mais il y a quand même des aspects positifs à tout ça, là. Je veux dire, la course, là, elle s'est arrêtée, là.
Ben, premièrement, je me suis dit, bon, ça y est, je suis une sorcière, je le savais. J'ai calé toute cette affaire-là. J'ai arrêté le capitalisme avec mon livre de 100 pages. la pandémie, l'affaire, c'est que, bon, tu sais, dans la vie, n'est pas une course. Si on peut arrêter de courir, mais je pense être complètement sur pause, ça fait quand même peur un petit peu. Tu sais, si on peut trouver un juste milieu dans le rythme, ça m'arrangerait.
Oui, mais il reste quand même que tu as des enfants. Donc, moi, les amis que j'ai qui ont des enfants, ils n'ont pas vécu la même pandémie que moi qui vit tout seul, tu sais.
Non, c'est ça. J'ai détesté, là. Le mois de mars-avril 2020, ça a été un cauchemar total, là. Je vivais énormément d'anxiété. Comme je dis, j'ai des antécédents de crise de panique. J'étais plus capable, tout me faisait peur, j'avais des scénarios de fin du monde, puis tu sais, j'aime énormément mes enfants, j'aime beaucoup ma vie, puis j'étais comme, moi, je veux pas que ça s'arrête, là, j'ai du fun, là, dans ce film-là.
Non, mais c'est intéressant comme commentaire, parce que la vie n'est pas une course, donc la pandémie fait que la Terre arrête de courir, et c'est encore anxiogène.
Ouais, là... Parce que en fait, cette pause, elle est souhaitable, OK? T'sais, mars-avril, on était tellement dans l'inconnu que ça, c'était trop pour moi. Là, j'étais comme ça, c'est correct. On peut-tu ralentir la dose un peu parce que c'était trop?
OK, c'est l'inconnu qui fait peur. OK.
L'inconnu, mais au-delà de ça, c'est que tout était brisé. Il n'y a rien qui fonctionnait. L'école était fermée. Moi, j'habite dans un petit appartement dans un quartier génial dans Montréal. J'aime cette vie. J'aime le brouhaha. J'en ai besoin. J'aime mon quartier, mais là, mon quartier était fermé. Les magasins, la vie, les voisins, tu sais, tout ça était mort quelque part. Puis en plus, c'est qu'on vivait, c'était la fin du printemps, la fin de l'hiver. Mm-hmm. Et Dieu sait que ça, pour nous, c'est tellement important. On s'en va vers les beaux jours. Puis là, on était dans l'espèce de période dégueulasse où est-ce que c'est la fin de l'hiver, mais il n'y a rien qui a poussé. Tout est de la gadoue. Il a fait gris. Il a fait zéro pendant... Écoute, jusqu'au mois de mai, il faisait zéro. Là, j'étais comme, ça va-tu finir? C'était gris. C'était Tchernobyl dans mon parc. C'était ridicule. Mais c'était la mort, en fait. Tu sais, c'était la mort. Puis, la mort, ça fait peur. Tout notre monde est organisé pour qu'on la regarde pas. Puis là, écoute, on avait notre mort, notre côté éphémère en pleine face. C'était beaucoup d'une shot, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui a levé le voile là-dessus d'une shot, là. Puis c'était une grosse dose de vertige. Puis, l'affaire, c'est que la peur, aussi désagréable qu'elle puisse être, puis la mort aussi présente qu'elle a pu être, puis encore, je ne l'ai pas vécue de proche, c'est-à-dire que je n'ai pas perdu quelqu'un ou quoi, mais j'avais ce sentiment quand même de plus de mort que d'habitude. L'affaire, c'est que si tu l'acceptes, puis tu comprends que tout est un cycle dans la vie, puis que c'est nécessaire, ben, même pas que c'est nécessaire, c'est qu'on n'a pas le choix. Puis on a beau se le cacher, c'est vraiment là. Puis si tu l'acceptes, ben là, ça te met une grosse dose de lumière, je pense, dans ta vie. Parce que ce que ça a fait, c'est que même si c'est pas une course, ça a accéléré ma capacité à faire juste ce que j'aime. Parce que la mort a été tellement là et est encore tellement là que c'est comme, OK, c'est pas une joke là, que ça s'éteint à un moment donné, cette affaire-là. Fait que tout le flafla, tout le non-essentiel, qui est quand même très présent dans le message de mon livre, tu sais, c'est ça, c'est l'amour, là. C'est va vers ce que t'aimes, man. Fais ce que t'aimes, reste avec le monde que t'aimes, aime ton monde, aime les gens, injecte de l'amour, là, parce que tu le regretteras pas.
Mais d'ailleurs, vous dites que la pilule, dans un des chapitres, je sais pas qu'est-ce que c'est encore. En tout cas, c'est l'amour. On a beau prendre des pilules pour toutes sortes d'affaires, contre l'anxiété, contre ce qu'on veut. En fait, ce qu'il faut, c'est de l'amour. Puis, en lisant le livre, la semaine passée, donc, on est dans une fin, puis peut-être un renouveau de COVID, mais il reste qu'on ne va pas l'aborder de la même façon.
Non.
Mais je me suis dit, mais quel bon timing pour sortir un livre comme celui-là. D'ailleurs, sur la page couverture, pourquoi il y a, je dis trois lièvres, c'est pas des lapins, comme le lièvre et la tortue, probablement que ce sont des... Pourquoi il y en a trois? Pourquoi c'est...
Il y en a trois, c'est vraiment un choix graphique, mais c'est pas moi qui ai eu cette idée, mais je l'adore. C'est juste vraiment le logo par excellence de Va pas trop vite, puis je trouve que ça se comprend super bien. C'est le même style de dessin que ce qu'il y a dans le livre, puis ça a un côté... J'aime beaucoup les synthèses, moi. Je suis une personne de synthèse, fait que un lapin barré, même si tu lis pas le livre, tu vas comprendre.
Mais je pensais peut-être parce qu'il y en avait trois, il y avait comme trois messages. Ou
oui, c'est parce que j'ai trois enfants, c'est un appel aux gens, faites pas des enfants, c'est vraiment dur. C'est ça, c'est ça le message.
D'ailleurs, parlant d'enfants, parlant de famille, t'apportes un regard qui, et je pèse mes mots, rafraîchissant sur l'infidélité, en disant que c'est une façon de prendre un break de nos vies de fous. Là, j'aimerais t'entendre là-dessus. J'aimerais que les auditeurs du balado et aussi du salon entendent. C'est vraiment intéressant, ce regard-là.
Bien, l'infidélité, c'est un sujet excessivement tabou. Parce que Dieu sait que ça vient avec des conversations très agréables à avoir dans la vie. Je suis mariée depuis 11 ans, en couple depuis 13 avec le père de mes enfants. Et nous vivons une vie tout à fait monogame et fidèle tous les deux. Mais c'est sûr que sur le chemin, tu sais, c'est pas facile rester fidèle, c'est pas facile être monogame. Et si tu veux, à mon sens, avoir une relation riche et intéressante, ben il faut que tu sois capable de te parler d'un paquet d'affaires. Et ça vient forcément avec de l'inconfort. Et il faut, dans un couple, je pense qu'un couple doit apprendre quoi faire avec les gens qui nous attirent. Et c'est pas tous les couples qui sont capables de se parler au même niveau de ces choses-là, mais il va forcément y avoir du monde que tu vas trouver intéressant, qui vont t'attirer, que tu vas trouver beau, même si tu es dans une relation, ça arrive à absolument tout le monde. Puis ensuite, ben c'est ça, il faut avoir ces conversations-là. Et souvent, ben en fait, dans mon livre, c'est que j'en parle avec les expériences que moi j'ai vécues et j'en parle aussi parce que je pense que notre quotidien est tellement chargé et on vit justement dans un monde qui met tellement de pression qu'il arrive à un moment donné où tu veux prendre de la drogue pour fuir. Et l'infidélité, souvent, c'est une forme de drogue. Parce que une drogue, par définition, c'est quelque chose qui fait que tu t'échappes, en fait. Puis ça peut prendre n'importe quelle forme, mais des fois, cette drogue-là, ben, c'est la relation que tu entretiens avec quelqu'un qui n'est pas la personne que tu as dans ton couple. Parce que, justement, c'est un échappatoire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sautent la clôture parce qu'ils veulent, comme je dis dans mon livre, frencher une langue qui leur demande pas de sortir les poubelles. Tu vois? C'est
ça. Mais je trouve que c'est enlever beaucoup de poids à quelque chose qui ne devrait pas en avoir tant que ça. Quand ils ont décidé, là, la personne qui a décidé qu'on allait se marier puis vivre notre vie avec quelqu'un ou passer une vie de couple avec quelqu'un pendant des années, ben dans ce temps-là, l'espérance de vie était peut-être de 30 ans, mais là, Christ, on est parti jusqu'à vivre jusqu'à 120 ans. Là, je veux dire, c'est un Moses de contrat. Donc, je trouvais ça très, très intéressant, ce regard-là sur l'infidélité. Ça fait du bien. Il y a beaucoup de sujets que je voudrais aborder. On n'a pas assez de temps pour le faire. J'invite les gens à lire ton livre, Léa. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien à toutes ces personnes qui sont comme nous, qui peuvent pas prendre cette course-là. Il y a un endroit sur la planète où je me suis sentie bien pour la première fois, mais j'étais là pendant quelques semaines. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, pourquoi je pourrais pas vivre ici? T'sais, enfin, je trouve des gens à ma mesure. Donc, c'est ce que ce livre-là m'a apporté. Je me suis sentie en Afrique, comme quand j'étais allée, parce que tout le monde est calme et s'énerve pas. Il y a plein de choses là-dedans. Je vais t'entendre sur le chapitre 12, « L'enfant brisé dans nos besaces ». Quand tu dis que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ceux qui les observent. Mm-hmm. Oh, intéressant comme point de vue. Encore là, je te dis, on se sent tellement bien après la lecture de ton livre, moins coupable, je dirais. Ouais. Ouais.
Ben, en fait, à la base, c'est même pas moi qui ai dit ça, c'est Oprah. Ah! Que j'aime tellement. Ben, en fait, c'est, je pense que c'est en l'écoutant, elle, dans un... Je me souviens plus exactement où, mais c'est là que j'ai pour la première fois entendu ce concept-là. Ouais. Ben, c'est parce que comme beaucoup de gens, j'aime réfléchir, j'ai beaucoup de mots dans ma tête, mais ça a un double tranchant souvent parce qu'on a un dialogue intérieur qui peut être aussi très négatif. Et je pense qu'il faut apprendre pas à faire taire ce dialogue, mais en tout cas, il y a beaucoup de mots qui servent à rien dans nos têtes, là, qui font juste régénérer de l'angoisse et de l'anxiété. Puis, je pense que ça fait du bien de juste pouvoir se détacher de ce dialogue en se disant si ça n'est pas... Je ne suis pas cette espèce de moulin à paroles que j'ai dans ma tête. Je suis ce qui peut prendre conscience de ce moulin à paroles. Donc déjà, ça crée une distance et ça fait que quand ce dialogue-là est très négatif, puis que ça vient avec beaucoup de... Je sais que moi, j'ai eu très longtemps énormément de ce qu'on dit en anglais de self-hatred, là, de je ne m'aimais pas, tu sais, puis j'avais beaucoup de mots qui me faisaient mal, qui me... Tu sais, t'es pas assez, t'es pas, tu sais, j'avais un perfectionnisme. Et je pense que pouvoir se détacher de ça puis te dire, ben, je suis pas cette cassette-là parce que j'ai la capacité de l'observer, ben, c'est ça. Je trouve que ça aide de se dissocier de cette affaire-là.
De sentir pas adéquate ou pas assez, j'ai l'impression que c'est féminin. À la page 13, c'était difficile de choisir, mais on doit nous adapter à des mondes qui ont été conçus sans nous. Et la période de vie pendant laquelle on est la plus fertile tombe pendant les années les plus propices à se bâtir une carrière. Mm-hmm. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
T'sais, c'est facile de se sentir adéquate dans des moments comme ça. T'sais. C'est peut-être parce qu'on n'est pas... dans un milieu où est-ce qu'on favorise pas ça, c'est... mais juste de se poser la question, je trouve ça tellement sain.
Ben oui, puis aussi ça fait que tu te sens moins inadéquate, justement, c'est parce que ce monde-là, très souvent, toutes ces sphères de travail qu'on a dû pénétrer avec le temps, nous les femmes, tous ces mondes-là n'ont pas été réfléchis en fonction des femmes. Les femmes n'étaient pas là. Toutes ces sphères de décision ont été réfléchies sans nous. Donc, c'est sûr que les gars... puis tu sais, j'irais même pas de c'est une mauvaise intention. Je pense que si ça avait été l'inverse, là, nous, on aurait fait des mondes où est-ce que t'es menstrué une fois par mois, là, tu sais. Puis il aurait fallu que tout le monde mette un tampon, puis même les gars, puis ça aurait été ça, tu sais. Parce puis eux, ils auraient trouvé ça un peu douloureux, puis long à la longue d'avoir un tampon alors qu'ils saignent pas. Mais crime, c'est de cette analogie-là, on la vit, nous. Nous, on fait partie d'un monde qui a été pensé en fonction des besoins et des envies des hommes.
Le temps file. La vie n'est pas une course, mais le temps, lui, arrête jamais. Cours-tu mieux?
Oui, je cours encore, mais mon énergie va à développer ce que j'aime. Mon énergie va... Et ça vient avec des prises de conscience de moi-même. Tu sais, comme ce que tu dis, les prises de conscience, ce que ça fait, c'est que tu te rends souvent compte que tu as accepté des choses que tu n'aurais pas dû accepter, en fait. Et c'est pas toujours la faute des gens autour de toi, c'est que toi aussi, t'as tout simplement pas dit. Par exemple, je te donne un exemple, moi j'adore décorer ma maison, j'adore la déco, le design intérieur, organiser tout ça, puis pendant longtemps, je l'ai pas fait parce que mon mari, ça l'intéresse pas vraiment, ça. Et moi, j'attendais un peu que ça finisse par l'intéresser pour m'y mettre. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey man, je suis tannée là ». Fait que moi, j'ai commencé à faire ça puis au début timidement, puis maintenant, je ne pense qu'à ça. C'est ma passion, c'est mon hobby, je le fais. J'aime ça, je suis toujours en train de bouger des affaires dans la maison. C'est ce que j'aime, tu sais. Et ça, justement, je te dirais que je cours mieux parce que mon énergie et mon temps et mon attention va beaucoup plus à des choses que je ne m'autorisais pas forcément. Et ça va vers une vie plus riche pour moi. C'est ce qui me préoccupe ces temps-ci. C'est d'aller vers quelque chose de plus plaisant, plus riche, qui va dans le sens de ma vie et de la vie en général.
On aurait pu parler de plein d'autres choses, des pensées négatives, la pilule du bonheur. L'ADN de notre monde, c'est la compétition, c'est ce qui nous sépare, la méfiance de l'autre. Il y a plein de choses que tu abordes dans ton magnifique livre, Léa Streliski. Vas-tu en avoir d'autres?
Oui, il y en a un prochain qui va être sur l'amour.
Ah,
hein?
Oh.
Voilà.
J'ai hâte de lire. Merci Léa.
Ça m'a fait très plaisir. À la prochaine. Chapitre 2, tu seras un homme, ma fille. Je vous vois les femmes, je vous vois les femmes modernes, les femmes qui se sont mises à travailler beaucoup, partout, se greffant généralement à des sphères imaginées et conçues par les hommes. Ils ont pensé à tout, du rythme de production au degré de la clim. Et bien souvent, comme moi, vous avez l'impression d'être traité en invité sur une planète qui est pourtant la vôtre. Trop souvent, on doit s'adapter, faire semblant, se soumettre, avec le sourire. Et ça, c'est quand on ne passe pas notre journée de travail à devoir fuir les mains baladeuses, les regards insistants, dégoulinants, qui viennent d'en haut. Ça, c'est quand on ne se cache pas dans les toilettes pour sécher nos larmes, gérer l'appel de la garderie, tenter de ne pas crouler sous la pression. Mais parlons-en de cette pression. En plus de devoir nous adapter à des mondes qui ont été conçus sans nous, la période de vie pendant laquelle on est la plus fertile tombe pendant les années les plus propices à se bâtir une carrière. Cauchemar. Les deux sont pile en même temps. Alors nous y voilà à ce carrefour. Nous nous sommes libérés, le lave-vaisselle et les papas ont réduit le temps des tâches ménagères ou on a juste décidé de tout laisser en bordel. Nous avons eu accès à la majorité des domaines de travail et maintenant on fait quoi? Maintenant, on se retrouve face à une sorte de dilemme cruel, choisir entre travailler et fonder une famille ou faire les deux en même temps et avoir l'impression de se faire écarteler. Tirer de tous bords, tous côtés, se faire épuiser par les demandes de la terre entière, les enfants, le mari, les collègues, les amis, se mettre à une sorte de travail à la chaîne des demandes, devenir un robot qui passe d'un truc à l'autre en ne sachant même pas à quoi ça sert. Devenir un ordinateur qui produit un résultat quand on appuie sur les touches, un machin, une machine. Une machine qui, un jour ou l'autre, ne peut plus avancer. Capoute. Mais maman ne peut pas faire capoute. Maman doit continuer à se lever le matin. Maman a des sandwichs à faire. Alors, livide, tu continues et tu pousses et tu pousses et tu pousses. Et t'as l'impression que tu ne peux en parler à personne. Alors, tu t'isoles et tu t'isoles et tu finis par vouloir monter sur un pont. Tu te vois sauter, tu te vois t'envoler, fuir, ne plus devoir, juste arrêter de répondre et d'être. Tu rêves de sombrer dans une sorte de brouillard où on te foutrait la paix. C'est tout ce que tu voudrais, la paix. T'as échoué. Tu n'as pas réussi à répondre aux demandes de la société. Non, on ne peut pas tout avoir. Dans aucun conte de fées, la princesse travaillait. Une fois sauvées, les princesses ne travaillent pas. Elles s'occupent. Elles parlent aux souris et aux oiseaux. Elles se coiffent. Mais travailler, non. Alors, si on ne nous vend pas la formule travail, couple, enfant qui va bien, si on ne la voit nulle part, peut-être qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas possible.
www.salondulivrepa.com Programmation 2020, espace Sophilie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est la spécialiste Sophie, spécialiste en littérature jeunesse, qui nous offre une carte de livres, comme une sorte de carte routière des livres. 34 suggestions de lecture, parce qu'il y a 34 écoles dans le district scolaire francophone nord-est. Et ce que je fais, je suis curieuse, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe sur Premier Trio. Alors, je clique.
Salut, moi c'est Sophie. Vous m'avez peut-être vu l'année dernière au Salon du livre de la péninsule acadienne, dans mon espace Sophie Lisa, un espèce de petit salon où vous pouviez venir me voir pour que je vous parle de livres pour ados. Cette année, COVID oblige, on a dû imaginer les choses autrement. Ce qui fait qu'on m'a proposé un super projet en vidéo. Le concept, c'est 34 capsules pour 34 livres qui pourraient vous intéresser. On fait ça court et précis. Premier Trio, c'est une série parfaite pour les amateurs de hockey. C'est l'histoire de trois joueurs qui jouent dans une même équipe de Bantam 3A. Et donc, il y a Xavier qui était le capitaine l'an dernier, qui revient dans le camp de sélection en voulant un peu prendre sa place, prendre son rôle, mais aussi prendre soin des autres. Il y a Chloé qui a joué avec eux quand ils étaient petits et qui maintenant essaie de rejoindre l'équipe, qui est accueillie plus ou moins bien par les autres. Une fille qui joue Bantam 3, c'est quand même assez rare. Puis il y a aussi toute la relation à sa famille, à elle, parce que sa mère aime pas trop qu'elle joue au hockey, elle voudrait la protéger. Donc, il y a toute cette espèce de rôle-là. Et c'est l'histoire de Max. Max joue au hockey vraiment par passion, mais on se rend compte que Max vit dans une famille qui est assez pauvre, qui n'a pas vraiment les moyens de payer son entraînement, son équipement et tout. Donc, Max doit travailler aussi énormément pour pouvoir faire l'équipe. Et donc, il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. On est plus dans le camp de sélection, mais il y a 3 tombes de sortie. Et donc, on entre aussi dans l'année scolaire au fur et à mesure. Si vous aimez les livres de hockey, puis des livres qui sont vraiment un réaliste qui se passe dans le quotidien. C'est la lecture pour vous.
On demeure toujours dans l'univers de la jeunesse et je vais vous faire la lecture d'un extrait de ce conte écrit par Philippe Garon et Sonia Cotten, Cours Ben Cours. Je vois tout, j'entends tout, mais pour vous raconter cette histoire-là, j'ai besoin d'aide. Parce que dans le fond, moi, je ne suis qu'une vieille corneille albinos. En connaissez-vous beaucoup des corneilles qui essaient de raconter une histoire? Non, hein? Bon, fait que j'ai besoin de votre aide. Premièrement, imaginez-moi, blanche, complètement, y compris le bec et les pattes, avec les yeux rouges. Selon certaines légendes, il ne naît qu'une corneille albinos tous les 100 ans. Il paraît que nous avons un don particulier, mais nous le découvrons seulement au prix de bien des difficultés. Foi de vieille corneille, je peux vous dire que je ne me connais aucun super pouvoir à ce jour. Pourtant, côté difficulté, j'ai donné. Au fil des ans, j'ai vécu plus que ma part de rejet et de raillerie. Je porte plusieurs cicatrices, dont certaines m'ont même été infligées par mes semblables. Je vole un peu croche. Mon aile gauche a été maganée lors d'une collision avec un gros camion. Mais j'ai toute ma tête, par exemple. Avec 12 ans d'expérience dans le bec, j'en sais des choses. Et malgré mon âge vénérable, je suis restée curieuse. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Maintenant, imaginez la ville la plus laide. La plus noire, la plus sale que vous puissiez imaginer, avec une rivière qui la coupe en deux. C'est ma ville. C'est là que Ben grandit. Ben vit avec son père dans un petit logement, un vrai taudis. Aux yeux des gens, Ben et son père sont pauvres. Même si M. Baptiste est très intelligent, il n'arrive pas à se trouver de travail. Ça se comprend. Il n'a ni bras ni jambes. Un homme tronc, comme on dit. Pas évident de dénicher un emploi quand on est différent. La plupart des êtres humains n'aiment pas ce qui est différent, même quand ils disent le contraire. Je suis bien placé pour le savoir, croyez-moi. L'histoire commence pendant que Ben et son père dorment. Ben, c'est le genre de gars qui dort dur. Même si son père ronfle comme un tracteur, Ben, il dort. Mais en plein milieu de la nuit, bang! Ben se réveille d'un coup sec. Il ouvre les yeux. Tout brûle! La boucane lui coupe le souffle. Il entre dans la chambre de son père, pas capable de le réveiller. Vite, faut sortir! Il le prend dans ses bras, le place dans sa poussette à trois roues, fonce vers la porte et se précipite dehors. Ouf! Son père n'a ni bras ni jambes, mais il pèse quand même 100 livres. Ben a beau être habitué, ça reste pesant pour un enfant de 12 ans. À l'extérieur, partout du feu, de la grosse boucane noire. Les habitants courent dans tous les sens en criant comme des perdus. Ils demandent de l'aide, mais personne ne s'occupe de lui. « Faut que je retourne chercher mon livre !» qu'il se dit. Mais impossible de rentrer dans l'édifice. Le feu est trop fort. Tout d'un coup, bang ! Une autre explosion. Une autre, et puis une autre. Ça n'arrête pas. Ben a mal aux oreilles tellement c'est intense. Ça pue le diable. Faut se sauver. Mais par où aller ? Ben c'est tout pour ce 4e balado. Je remercie à la technique Eric Miller, à Jean-Marie Pitt-Benoît pour toutes les musiques. Ici Diane Lausier à la réalisation et à l'animation.